Aujourd'hui, un sujet un peu lourd et dramatique. On va parler d'humour. Oui, avec Simon Trottier et Matt Lévesque. Bonjour, les gars.
Salut, Pierre.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Oui? Oui,
très bon titre, en passant. J'avais même pas entendu le titre avant d'être en onde, l'échangeur.
Ben, écoute, c'est ma magnifique équipe qui a sorti plein d'idées de titres. Puis moi, j'aime pas ça trouver des titres. Puis j'ai fait, hein? Ça marche. Ouais. Il y a de quoi que j'aime là-dedans.
Un jeu de mots, tu sais, sur le thème. Un jeu de mots. Ça marche ou ça marche pas aussi.
Ça marche.
T'as-tu vu des émissions des commerces?
Oui, t'as-tu vu ma face sur leur métro au ralenti? Ça n'a pas marché. Changeur de structure des
Ça va être drôle, ça, aujourd'hui. Les gars, vous êtes ici parce que vous êtes humoriste, vous connaissez le milieu de l'humour, vous arpentez ça. Ça fait combien de temps là, que vous faites ça comme professionnellement, là? L'humour?
Professionnellement, d'en vivre, là, je te dirais que ça fait pas tant longtemps que ça.
Ouais.
Mais ça a toujours été un bon sideline, un bon plan B, si on veut. Mais là, moi, cette année, je vis uniquement de ça. Mais qu'on a commencé, nous autres, on a commencé quand on avait...
2003, ouais, que 2004, vous aviez fait 2003-2004, que les gars avaient loué l'auditorium, Manu puis Mathieu.
Ouais.
Un duo qui s'appelait Cahute et compagnie,
ouais,
à la belle époque. Ils m'avaient invité à faire des stand-up comiques à l'époque entre leurs trucs, puis après on s'était mis ensemble. Là, mais professionnellement, quand même, ça a toujours été un but. Tu sais, une nuance entre j'en vis, puis c'est ce que je fais qui me permet
mais
de vivre.
Mais vous le faisiez, tu sais, Mathieu, tu le faisais de manière professionnelle, même si tu ne vivais pas de ça. T'sais.
Non, là, je parlais plus de l'aspect financier. Mais non, mais c'est ça. Mais
la reconnaissance des pères, tout ça, on l'a eu avant.
Ça fait longtemps.
Ben oui. Aussi, là, puis de...
Qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'humour? Tu sais, à un moment donné, c'est quoi le déclic? Parce que, honnêtement, ça ne doit pas être évident. C'est un milieu, surtout, là, tu sais, en région, là, vous commencez pas au Club Soda, là. Comment, c'est quoi qui... déclic, tu fais « Moi, je suis drôle dans la vie, je vais aller faire rire le monde. » Comment ça s'est fait?
On ne savait pas qu'on était drôle, là, premièrement. Non, mais vraiment pas. Là. Mais c'était, je pense que c'était, on est en région, puis peut-être qu'on a moins d'activités à faire. Je pense que les jeunes, soit qui s'en vont vers les arts ou le sport, ou c'est souvent... Puis nous, Manuel, un moment donné, m'a dit « On devrait peut-être écrire... On devrait se voir un moment donné, puis on devrait écrire des sketchs. » Puis là, j'ai comment ça me parle, ça, tu sais. Mm. Un gros fan de tout ce que Meunier faisait. J'écoutais beaucoup La Petite Vie, j'écoutais beaucoup... tous les galas qui passaient à la télé, je l'écoutais. Puis on a commencé comme ça, puis on s'est inscrit au cours de Jimmy Doucette. Puis là, on a travaillé ensemble, puis c'est là que ça a été... On a eu la piqûre, mais on a tout de suite voulu être des créateurs, puis monter nos propres affaires. Fait que là, on a loué des auditoriums pour faire... Puis il y avait une réponse, puis...
Puis tu touches à quelque chose d'intéressant, tu sais, écrire vos propres affaires. Tu sais, par exemple, un jeune qui veut faire du théâtre, qui veut faire de la chanson, souvent, ils vont peut-être commencer en jouant une pièce de quelqu'un d'autre ou en refaisant des chansons de Francis Cabrel, je sais pas, là. Mais faire un sketch de quelqu'un d'autre, ça se fait pas, ça, tu sais. Faut que vous soyez des créateurs avant tout, là.
Bien, certain. Puis, tu sais, au début, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a une bonne nuance. Souvent, quand tu es attiré par le jeu pour être comédien, tu veux explorer c'est quoi d'être un tueur, aller dans des rôles. Je pense que l'humour, moi, de mon côté, tu sais, je pensais pas être attiré vers le sketch à la base, même si ça a été plus ça mes débuts. Moi, quand j'étais petit, tu sais, mes parents sortaient une caméra. Puis, Simon, raconte-nous le film que tu as vu hier. Tu sais, je raconte des histoires, moi, depuis vraiment longtemps. Fait que c'est un peu naturel pour moi de le faire.
Ça existe-tu, ça, des prises?
Ben, ma mère doit avoir des prises de moi qui
va aller
voir. On va aller voir. Qui raconte Yogi, le film Yogi l'ours.
Je racontais des grands moments.
Non, mais des grands moments de télévision, c'est dans les archives. Si on était aux enfants de la télé, ils l'auraient, Pierre, le changeur Turcotte. Là,
moi, ça serait l'inverse, là, vois-tu, ma mère, la caméra, puis je pleurais, puis je m'en allais, tu sais, moi.
OK.
Mais faire nos propres stocks, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment donné, moi, je l'ai toujours dit, je pense pas que je suis un grand comédien, on a envie. Si je fais mes affaires à moi, je suis capable de m'enligner et tout ça. Mais de dire je serais dirigé, je serais pas inintéressé par l'expérience, j'en ai fait un peu. Mais ça m'a vite amené à mes trucs à moi aussi, ça peut fonctionner versus au lieu d'attendre de me camper dans tel rôle ou tout ça. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de ça un peu dans l'humour, que c'est comme... C'est de l'acting de ton propre rôle. Parce que je dis que c'est quand même de l'acting parce que tu as un personnage scénique, tu amplifies des traits qui t'appartiennent, mais c'est de l'acting de toi-même. T'sais.
Ouais.
Fait qu'il y a un peu de ça dans l'humour, je pense, qui est plus que le comédien, lui, qui n'est pas vraiment intéressé à acter soi-même. Là. Lui, il veut, tu sais, aller ailleurs.
Puis, tu disais, là, on peut être un tueur ou n'importe quoi, mais dans vos sketchs, vous pouvez aussi vous mettre en scène, tu sais, trouver ce qu'il y a de drôle là-dedans, là.
Puis moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé vers le sketch. Cet été, on a fait une pièce de théâtre, moi et Mathieu.
Ouais.
Puis, tu sais,
ça a vraiment bien marché.
Oui, ben mais ça a été un gros succès. Puis ça, j'ai adoré faire ça, mais encore, on s'est campé des rôles dans lesquels on était confortable. Puis tu sais, on n'a pas travaillé avec un metteur en scène non plus, qui peut être des expériences qui t'amènent sur une autre track, tu sais. Mais vraiment, ça a été la raison pour laquelle je suis allé vers le solo avec les années. T'sais, plus j'en ai fait, puis autant que j'ai aimé en faire, j'ai compris ça à un moment donné que mon hic, c'est quand je fais du moi-même. C'est quand même bien que j'essaie d'interpréter des choses. J'ai quelques rôles que je peux faire, puis c'est pas malaisant que je le fasse, mais à la base, c'est acté, c'était, mais ça faisait longtemps. Et on a fallu qu'on se remette dedans. La première fois qu'on a pratiqué, genre, j'ai comme regardé le monde en faisant un petit. Parce que j'étais comme, tu parles à qui, là? C'est pas dans le salon funéraire tout seul. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de monde à qui.
Le quatrième mur.
C'était ça, moi, Mathieu. Là, il faut qu'on se regarde, pas trop qu'on regarde. Tu sais, réapprendre tout ça, parce que c'est pas les mêmes codes. L'humour, le stand-up, ben puis le théâtre, la comédie. Il y a des tronçons qui se retranchent, mais sinon, c'est vraiment des codes différents.
Ben oui.
Toi, Mathieu, t'es-tu plus personnage? T'aimes-tu mieux être toi-même? Qu'est-ce que tu préfères là-dedans?
Ben moi, quand on s'est séparés avec moi, Simon puis Manu, eux autres sont allés vers la grande ville, sont allés vers Montréal. Moi, je suis revenu vers le Saguenay. Puis à cette époque-là, j'ai vraiment fait beaucoup de choses avec ma caméra, puis j'essayais bien des affaires.
Fait que oui, ça fait vraiment drôle.
Je me suis trouvé dans des personnages un peu. J'aime beaucoup ça, mais j'aime beaucoup ça le faire soit en format théâtre comme ça, ou en format web. En web, j'adore ça. Genre, je trouve que c'est des beaux véhicules. Puis, mais tu sais, moi aussi, là, j'ai mes gars de région un peu, ou des personnages des tout le temps bons qui reviennent, comme on l'appelle. Mais tu sais, c'est ça. Moi, mettons, des fois, le monde me dit hey, « c'est bon ça, tu devrais le faire sur scène. » Je dis « Non, jamais quand je vais me mettre une moumoute puis je vais aller tout seul devant un pied de micro pour faire comme du stand-up personnage. » Ça, je veux rien savoir de ça. Mais le faire sous forme de théâtre, comme on l'a fait cet été, ça, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Moi, j'aime beaucoup jouer, là. J'ai trouvé ça le fun de retrouver ça aussi, justement.
D'être sur scène, là, c'est...
Ouais, puis tu sais, de travailler à deux aussi. On est tout le temps tout seul. C'est un métier qui est très solitaire, là, faire du stand-up. Puis, fait que de faire ça, puis de... Non, c'était vraiment le fun d'écrire du dialogue, là. Moi, j'aime vraiment beaucoup ça.
Ton côté petite vie meunier, on l'a ressorti bien gros, là, aussi. Ouais. C'est vrai que là, on se fait depuis devant le public, tu sais, il y a quelque chose de...
Ben oui.
De burlesque,
puis il y a de quoi que vous aviez déjà, c'est tout le feeling de la salle, tu sais, vous êtes habitué à ça, là. Rire, ben tu sais, au théâtre, des fois... Pour les gens de théâtre qui ont fait beaucoup de théâtre divers, quand ils arrivent des fois dans l'humour, ils ont de la difficulté à faire ça, tandis que pour vous, c'est inné.
Laisser respirer, ouais. Mais même là, tu sais, vois-tu, la première fois qu'on l'a fait, ben c'est parce que, tu sais, nous autres, habituellement, quand tu sais, du stand-up, moi, je me rappelle, tu sais, il y a un de mes segments qui est le plus populaire, c'est quand je parodie quelqu'un de la région, que, tu sais, on a fait sur le skidoo, qui s'est ramassé au prochain stand-up. Ça, je l'ai écrit le matin même avant de le faire au bateau de nuit à Québec. Le matin, j'ai ce flash-là, je le pratique 4-5 fois dans mon salon, je le fais le soir, ça marche super. Au bout, je fais comme « OK, ça, je tiens quelque chose, puis je vais pouvoir le promener pendant plusieurs années. » Mais vois-tu, nous autres, on a écrit notre pièce de théâtre à partir de novembre jusqu'en janvier. Après ça, mois de là, on trouve les commanditaires. Après ça, on commence à pratiquer tout le mois de juin. On se voit deux fois par jour, matin, soir, pratiquer. Hey, là, rendu au mois de juillet, là, quand c'est le temps de la sortir, là, on avait-tu hâte d'avoir quelqu'un dans la salle qui rit? Parce que moi, je trouvais même plus ça drôle.
Ben c'est comme là.
Puis on mettait en humour, effectivement, la réponse est assez immédiate, mais instantanée. Quand t'as un flash, comme Matt dit, tu t'attendras pas 8 semaines avant de le tester. Là. Tu veux voir si t'as une minute-là ou deux, t'as une piste, tu tiens de quoi, tu y vas. Puis à soi, moi, l'intégrer avant mon numéro, m'a faire ça. Tu sais. La technique en humour, souvent, est appelée le sandwich de marde, dans ce sens que un bon pain, la marde, tu finis avec un bon pain. Ouais. Fait que la marde est dans le milieu, dans ce sens que tu veux tester de quoi, tu commences. Pas avec ça, tu finis pas avec ça. Ça veut dire, tu mets ça dans le milieu de matériel rodé.
Puis y a-tu des fois des moments d'impro qui arrivent en pendant que vous êtes sur scène, puis que vous faites hey, mon Dieu, ça marche ça, puis que vous changez vos numéros. Les numéros sont tout le temps en progression ou à un moment donné, quand c'est CT, vous ne les touchez plus?
Il y a toujours une part que tu peux améliorer. Moi, j'essaie toujours. Ben, moi, je suis moins impro avec les gens dans la salle. On dirait que je ne sais jamais sur qui je vais tomber. Puis je me dis tout le temps que la personne n'a peut-être pas envie de jaser. Il y a du monde qui le font très bien. Puis moi, j'ai déjà eu une expérience avec une copine qui m'avait dit qu'elle avait profondément détesté ça. Puis je suis comme resté avec ça. Puis j'ai comme fait OK, j'ai pas nécessairement besoin de lui parler puis de lui dire comment ça allait être ta journée. Puis Mais c'est sûr que si quelqu'un échappe un verre, parce qu'on joue souvent dans les bars, on peut faire déconner là-dessus. Mais moi, je vais plus improviser dans mes affaires, rajouter une petite. Puis des fois, si c'est payant, on le garde.
Ouais. À un moment donné, le numéro, il est canné à un certain point, tu sais, mais la porte n'est jamais fermée à une ligne qui est une surenchère qui arrache tout. Tu feras pas, bon, non, le numéro, il est fini. Là, mais à un moment donné, il se ferme. Puis à un moment donné aussi, il a l'envie de passer à d'autres choses aussi. Tu sais. Il finit par moins se faire quand il y a eu. Mais tu sais, Mathieu, il a quand même commence à avoir une belle tribune avec le prochain stand-up, là, les followings sur sa page. Mais aussi, des fois, je trouve que quand tu es dans le milieu de la relève, Tu joues beaucoup ton matériel. Moi, il y a des numéros que j'ai peut-être fait 100 fois. Mais si venait le temps de signer un one-man show dans la télévision, le Québec n'a pas vu ça. Ouais, tu sais, des fois, on se dit, ah, ça, je suis tanné de faire ça parce que je roule beaucoup. Mais dans les faits, le grand public n'a pas vu ça. Tu sais, je ferais un gala, des fois, j'aurais tendance à dire, hey, ça, c'est un vieux numéro dans ma tête. Ouais. Parce que monsieur, madame, tout le monde me découvrirait à cette affaire-là. Il y a un peu ça qui arrive que quand tu es rendu professionnel, tu signes une tournée, Phil Roy, il fait une tournée, il fait son show, il considère que les gens ont vu ce numéro-là parce qu'il a été télédiffusé.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, il y a des numéros que dans ma tête, je considère que le monde a vu ça. Les 3000 personnes qui me suivent ont vu ça, mais...
Oui, il y a encore pas mal de monde.
Encore pas mal de monde qui peuvent voir ça.
Bon, on est plus que 3000 au Québec.
C'est ça. Il y a de la marge.
Mais tu sais, toi aussi, c'est spécial parce que tu sais, quand on parlait de, en tout cas, le théâtre puis l'humour, je trouve vraiment que tu sais, c'est vraiment comme une sorte de confession de faire du stand-up. Tu arrives devant, tu dis là, moi, il faut que je vous. Mon but, c'est de vous faire rire. Je me confie. Puis autant qu'il y a une connexion avec le public qui se fait bien intense que, tu sais, quand on parle d'être tanné, moi, je trouve que. Mettons, là, quelque chose, là, je te parlais de l'affaire du skidoo. Là.
Ouais.
Ça fait longtemps que je le fais. Là. C'est rien qu'un petit segment de 2 minutes. Là. Puis, mettons, je l'ai peut-être fait une centaine de fois. Puis, c'est sûr que, mettons, si je me compare, je le fais aujourd'hui et au début, il y a une petite étincelle dans mes yeux qui doit être pas mal différente. Que moi, je me sens moins allumé par ça. Puis que le monde doit le ressentir aussi.
Ah oui, possiblement.
Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que je me reverrais le faire au bateau de nuit. Puis de voir que ça fonctionne dès les premières secondes. C'est sûr que je vais avoir quelque chose de bien allumé. Puis les premières fois, ça doit être ça. Mais tu sais, à force de le faire, nous autres aussi, ça devient comme une vieille toune. Puis on est comme.
Oui, oui.
Puis ça devient l'inverse. Tu sais, au début, tu es émerveillé par le fait que ça fonctionne parce qu'il y a du doute. C'est un mix entre du front et du doute, dans le fond, faire de l'humour. Il faut que tu y crois. Parce que si j'y crois pas, c'est comme un vendeur qui croit pas en son produit. Pourquoi qu'il te le vendrait? Moi, si tu me demandes, ta joke est-tu bonne? C'est sûr qu'elle est bonne. Sinon, pourquoi j'irais la faire sur un stage? Par contre, si tu n'as pas le doute de. Ça peut pas marcher, tu n'auras pas le juste équilibre. Puis ça devient le contraire. Au début, tu fais un gag, puis tu es émerveillé parce qu'il marche, fait que les premières fois, ça va. À la fin, ça devient un peu l'inverse. Tu le fais, puis si ça marche pas, tu es fâché. Tu n'es plus content qu'il marche, tu n'es pas content les fois où il marche pas. Fait que ça, je pense qu'il y a une petite nuance après ça. Tu prends le gag pour acquis à un certain point, puis je pense que c'est ça, ce moment-là, que tu viens qu'à te demander. Je veux-tu passer à du nouveau matériel pour avoir un peu cette. La petite flamme.
La
que...
petite flamme.
C'est vrai, ben oui, c'est un bic, ça, Mathieu.
C'est un bic, ça.
Le public aussi change, dans le sens entre jouer d'un bar plein ou d'un bar vide ou d'une salle ou jouer devant des personnes âgées ou des enfants. Je veux dire, les réactions. Parce que moi, j'ai joué assez au théâtre pour savoir que des fois, tu fais comme quelle salle étrange. Ça vous arrive-tu, ça aussi?
Ben oui, ben souvent. Ouais. Souvent. Même matériel, copier-coller, deux shows différents.
Mais tu n'auras pas la même énergie dans les faits si tu regardes un tape, tu dis à cause du public, l'énergie est ressortie différemment.
Le public devient, il fait vraiment partie du spectacle, tandis qu'au théâtre, ça fait partie du spectacle aussi, mais je veux dire, mettons, des musiciens, la toune, elle va être grosso modo pareil.
Oui.
Je veux dire, ils ne feront pas, hey, là, je vais faire un solo de plus parce qu'ils m'en donnent pas mal. Non, tu sais, ça va être la même toune. Mais tu sais, nous autres, s'ils nous donnent l'énergie, on va être capable d'en donner plus, ça c'est sûr et certain. Mais des fois, copier-coller, même salle, même gag, je veux dire, même setup.
Puis ça marche pas ou ça marche pas.
Un soir à gorge déployée, puis un autre soir il t'engorge, va comme. C'est quoi ça?
Mais il y a la théorie du gros rieur aussi qui est pas folle, dans le sens que quand il y a dans la salle, il y a quelqu'un qui fait qui rit fort. Hein?
Mais pas souvent, ça!
Matt, c'est ça, il aime ça, la fois. T'as visiblement. Mais quand il y a des genres de Pierre Curzon dans la salle qui rit à la gorge déployée, mais c'est ça pour dire que la personne qui rit à un niveau moyen, par exemple, se gênera pas de rire puis de se faire remarquer parce que ce gars-là, il rit plus fort anyway. Et là, ça
augmente. Ça amène.
Quand il n'y a pas ces gros rires-là, la personne qui rit un peu plus fort que les autres mais qui ne veut pas se faire remarquer, va essayer de.
Tu sais, un peu, mettons, tu as juste du monde comme moi dans la salle. Moi, je trouve à peu près tout drôle, mais je ris à peu près jamais. Non, mais tu sais, je ris jamais fort. Ça veut pas dire que je trouve pas ça drôle. Ben oui, hey, ça, c'est donc bien drôle. Mais je vais le dire de même plutôt que de m'exclaffer. Mais une foule de moi, là, c'est super intéressant.
Il y a des gens qu'il faut qu'ils l'extériorisent, je pense, avec le physique. Il y a du monde qui font comme, hey, c'est drôle, ça. Puis il y a du monde qui rit.
Moi, je suis rendu, je suis assez analytique demain quand j'écoute de l'humour. Ça va prendre des affaires, genre les Denis Drolet, tu sais.
Ou tu peux.
Des trucs super. Que là, tu peux pas essayer de faire une ligne directrice. Là, mais sinon, je suis assez.
Moi, je suis un bon public. Moi,
Mathieu, t'es un gros rieur quand même, tu sais. Moi, je vais aller voir des. Tu sais, Louis-José Hood, que j'adore, je vais aller le voir. Je vais être souvent en mode.
Mais en stand-up, tu sais, des fois, là, que je suis peut-être plus en mode analytique. Mais vois-tu, quand, mettons, je vais voir nos amis comme les Picbois, là. que c'est juste genre du laisser aller. Ben,
les Pigbois aussi.
C'est genre, tu sais, c'est comme. C'est du niaiseux, mais du bon niaiseux. C'est intelligent ce qu'ils font. Mais tu sais, c'est très niaiseux.
Quand même crétin.
Oui, quand même. Oui. Puis moi, là, je vais rire à gorge de poignée, puis je vais vraiment avoir du fun. Ouais.
C'est quoi vos inspirations en humour? C'est qui vous fait rire, là? Qu'est-ce qui vous fait encore rire aujourd'hui, qui vient de il y a longtemps? Je sais pas. C'est quoi vos inspirations? N'avez-vous? J'espère que vous n'ayez pas.
Oui, ben je pense tout ce qui est. Moi, c'est tout ce qui est marginal un peu, là. Ce qui est champ gauche. Les Denis Drolet, on en parlait.
Au Québec.
Autant un Mike Ward, on me fait rire. Mais nous autres, on est surtout. On n'est pas comme des stand-up comiques, là, en tout cas classiques, là, à l'américaine. On n'a pas même de l'humour d'observation. Ça dépend le média, mais pour la scène, moi et Simon, on est pas mal plus des raconteurs d'histoires.
Oui, c'est ça.
Fait que c'est sûr que, mettons, un Sam Breton, on va aimer ça. On va aimer Simon Leblanc, qui est vraiment excellent.
Mais on va aimer un Vox Pop à TVA Nouvelle.
Oui.
Mais on va plus dire que plus qu'il y a de la bière, plus qu'on en achète.
Ça, on va aimer ça plus ça que toute autre chose. Ça, c'est sûr qu'une bonne bêche de trois skis aussi. Le burlesque, on a commencé comme ça. T'sais. On le savait pas, nous autres, qu'on faisait du burlesque. Il a fallu qu'à un moment donné, on se fasse dire par des professionnels, dire ce que vous faites, les gars, c'est burlesque, c'est des personnages, c'est jouer gros. Mm. Fais, OK.
Non, puis des fois, tu sais, quand tu le sais pas. En tout cas, le burlesque n'a pas toujours eu bonne presse, là. Moi, je me rappelle dans le temps de Gilles Latulippe, pas pour vous comparer à Gilles Latulippe, mais.
Non, mais.
Mais ça, lui, c'est ce qu'il faisait. Puis dans le milieu du théâtre, il était un peu snobé par les théâtreux, si vous voulez.
Ouais.
Mais moi, je l'ai vu en spectacle, puis la performance physique que ce gars-là pouvait donner à, je sais pas, 75-80 ans. J'avais jamais vu ça.
Ben, tu voyais, c'est un gars qui a passé sa vie.
Ben oui, exactement. C'était fantastique.
Dans les faits,
mais c'était peut-être ça aussi que nous autres, de voir des jeunes en faire avec des looks, tu sais, je compte pas bien ben burlesque, fait que le monde faisait comment? On dirait qu'il y avait peut-être le petit vent de fraîcheur là-dessus aussi. Mais tu sais, on n'en trouve plus, là. Il n'y a plus personne qui fait comme ce qu'on... nous autres, on faisait des sauts de mousse, du sketch.
Ouais.
Tu sais, moi, je pense que l'humour à sketch a encore sa place.
Les Pigbois le font beaucoup, quand même.
Les Pigbois le font.
Mais dans leur show, il n'y a pas tout le temps qu'il y a du sketch aussi. C'est varié,
non.
Là, tu sais.
Mais... Non, c'est ça. Mais ce qui est vraiment difficile, c'est que, mettons, la fameuse question, que diriez-vous à trois jeunes qui veulent se sortir un groupe d'humour? Puis, je leur dirais que le chemin conventionnel de jouer dans les bars, de faire les soirées d'humour conventionnelles, ne peut pas leur permettre ça. Ils n'ont pas la technique pour ça. Ils n'ont pas genre trois pieds de micro. Premièrement, tu peux pas avoir de micro parce que tu bouges, tu es costumé.
Il n'y a
pas de loge. Tu vas te changer dans des toilettes. Ça
ça marche pas.
Ça, il leur dit ça à 8h30 le matin. Si les jeunes ils demandent ça au Vox à minuit, ils vont être « Faites pas ça! »
Non, ça, c'est ça.
Vous une vraie job!
Oui, sûrement. Oh, oui, ça, c'est vrai. Mais non, parce que c'est tellement long, puis c'est tellement difficile, puis c'est tellement douté. Puis tu sais... Oui, moi j'ai le côté plus pessimiste qui peut ressortir après une coupe de après une coupe de tasse. Mais non, mais tu sais, sérieusement, je pense qu'il faut faire le chemin inverse, il faut se servir des réseaux sociaux pour se bâtir un réseau. Puis après ça,
ça t'a permis entre autres de diffuser tes vidéos durant la pandémie tout ça.
Oui, exactement. Mais tu sais, mettons un groupe d'humour qui voudrait se starter, qui voudrait faire du sketch sur scène, je dirais ben là.
Sur web.
Allez chercher sur le web, faites vos sketchs, puis là, une fois que écrivez-vous un show de scène, puis faites-les dans des petites salles que vous allez avoir un décor, que ça va être vous.
Les gens
qui vous aiment vont nous voir. Ça, c'est merveilleux, ça.
Est-ce que c'est trop je sais pas, je dirais galvaudé, mais que l'humour est trop un gars avec un micro qui compte des jokes, là? T'sais, non, mais je sais pas parce qu'on. C'est ce qu'on voit le plus, en fait. Là.
Oui,
c'est... Est-ce qu'on va voir la fin de ça à un moment donné et on va revenir à d'autres choses? Ou ça, c'est...
Bien, il y a des cycles, ça, c'est sûr. Tu vois la fin de ça, tu sais, c'est un art qui est quand même, je pense, vieux, là, malgré tout, là, le racontage compté. Puis
ben,
je pense qu'il y a moyen il arrive toutes sortes de mix aussi dans les faits, comme la musique va merger deux styles. Tu sais, il arrive des gars comme Pierre-Yvois Desmarais, tu sais, que ce genre de stand-up-là ramène...
Qui est rafraîchissant un peu, parce que tu fais comme, mon Dieu, c'était où, ça?
Mais c'est sûr que repousser la limite, c'est de plus en plus dur, tu sais. Ouais. Les Denis Drolet l'ont vécu un peu ça que... Tu sais, dans les faits, si tu compares, c'est comme un peu Ding et Dong contemporain, tu sais, mais d'être absolument... Ding et Dong l'avait déjà fait, fait que là, il fallait que tu pousses ça une shot plus loin. Là, le monde ne comprenait pas au départ. Comme Ding et Dong se sont frottés à de l'incompréhension quand ça a commencé, ça n'a pas été un succès instantané, là, tu sais. Les Drolet, ça a été ça aussi. Puis moi, ce que j'aime d'eux, c'est qu'ils ont gardé leur ligne, que t'aimes ou t'aimes pas. Ils ont fait leur affaire, puis maintenant, ils visent un peu plus petit. Les Drolet, ils ne seront pas nécessairement à Salle-Berceau, au Théâtre Wilfrid Pelletier. Ils vont louer le petit Champlain. Ils vont louer. Puis au lieu d'avoir 6000 personnes, dont la moitié de la salle, c'est un forfait humour qui ne sont pas trop satisfaits, ils vont au petit Champlain, ils ont 400 personnes, puis ils ont du monde déguisé en Denis Drolet.
Ouais.
À ce point qu'ils veulent être là, tu sais.
Oui, parce qu'on l'a vu, le moment donné, oui, c'est des cycles. Moi, je pense puis, juste.
Moi, j'étais allé voir à la salle, leur deuxième One Man Show, les Drôleteries. Il y a que pas, ça n'a pas été un succès à part auprès des fans.
C'était pas plein.
Non, pas, ils n'ont pas fait un DVD. C'était un genre de creux de vague après le premier show. Mais c'était un super bon show pour les fans. Ça. Mm. Moi, j'étais allé voir ça. Puis il y a une dame à côté de moi à la salle à Berousseau. Puis on va prendre un ou deux pichets avec des chums au Star Bar avant d'aller voir ça. Puis, tu sais, on est bien craqués. Et le show part après 15 minutes. Mais, tu sais, je suis déjà en train de m'esclaffer, je m'essuie les yeux. La madame est à côté de moi comme ça, puis elle fait. Allez-vous rire comme ça tout le long? Tu sais, j'étais comme, tu comprends, à quel point les gars des Denis Drolet, ils aimeraient mieux des gars comme moi dans la salle que des 100 madames comme toi qui sont comme ça. Je pense que c'est ça le but. Là. C'est drôle, des fois, de dire, vous me dérangez, vous riez trop. Ben, tu sais, au pire, madame.
Ouais.
Oui, mais tu sais, c'est sûr, comme tu dis, ils restent sur leur ligne, mais le danger, c'est qu'à un moment donné, ils soient pris un peu là-dedans puis ils soient obligés. Là. Moi, je repense au, mettons, Monty Python, ils ont fait ça 5 ans. Après ça, ben, ils ont arrêté. Ils ont fait des films, ils ont fait d'autres choses parce qu'ils n'étaient pas capables justement de continuer à faire la même affaire.
Mais Denis Drolet, ils peuvent aller. Ils ont fait des pubs aussi beaucoup quand même. Ils sont mis à faire. Puis ça leur a permis, je pense, ils le disent eux-mêmes en podcast, que ces montants-là, ils ont fait Google, ils en ont fait quelques-uns. Puis ces montants-là nous permettent de garder un one-man show qui, lui, rapporte pas. Parce que c'est vrai que moi, j'ai remercié de faire ça en ce sens que. Ils sont pas édulcorés, ils sont pas devenus plus pâles pour avoir un grand public, alors qu'au moins les fans, ça en prend de l'art, la contre-culture un peu aussi. Moi, j'apprécie que des gens fassent ça. Moi, je suis un fan, d'exemple, je fais un parallèle avec la musique métal. Hey, le trois quarts des bands que j'écoute ne gagnent pas leur vie de ça. Là. Mm. Mais s'il n'y a pas du monde comme ça qui le ferait pour la passion, j'aurais pas accès à ce pan-là. Je me ramène à moi à dire, moi, ça me fait triper. Bien, il y a plusieurs comme moi un peu partout que ça on mérite d'avoir une culture qui est peut-être pas mainstream, qui permet peut-être pas peut-être d'en vivre, mais il faudrait que ça change parce que souvent les gens s'épuisent puis ça arrête aussi quand c'est juste.
On est là-dedans, nous autres, un peu la contre-culture, je veux dire. Ben nous autres, on n'est pas signé par des grosses boîtes de gérance, on n'est pas dans la machine. Puis moi, j'y trouve tellement mon compte, là, je suis bien plus à l'aise là que de suivre le parcours qu'un humoriste. Ben, tu sais, juste de rester à Dolbeau.
Ça, c'est une question que je voulais te poser parce que vous avez des parcours différents. Toi, tu décides de revenir à Dolbeau. Toi, tu décides de faire ton art à Montréal. Qui a la... Parce que, tu sais, maintenant, à Montréal, il y a peut-être plus de shows d'humour, mais il y a aussi plus d'humoristes. Toi, il y a peut-être moins de monde, mais on te sollicite peut-être. Il y a peut-être moins de shows, mais on te sollicite davantage. Qu'est-ce qui justifie vos choix? T'sais, pourquoi toi, tu as décidé de rester, de revenir à Dolbeau pour la liberté que ça pouvait te donner?
Ah, ben, moi, à l'époque, là, c'était vraiment. J'étais plus en mode création. J'étais là, me placer dans la vie. Puis là, j'ai eu une année, ben, tu sais, un retour en région quand même assez difficile. Là. J'ai une séparation. Puis j'ai eu comme 3-4 mois quand même assez creux. Mais vois-tu, quand que j'ai rencontré ma conjointe en ce moment, le goût de refaire de la création est revenu tout de suite. Ce que j'en remarque, c'est que. On dirait que c'est différent depuis que j'ai passé à la télé. On se dit encore, la télé, ça a-tu un impact? Pour une certaine génération, oui. Tout le monde, en fait, il est bon, il passe à la télé. Je suis pogné un job à la radio à cause de ça. Ça a tout bien fité. Ça a donné une crédibilité à ce que je faisais. Mm-hmm. Ce qui est plate, par exemple, c'est que, mettons, les gens vont avoir tendance à plus t'oublier parce que t'es loin et on se croise pas souvent. Ils pensent pas à toi. Ou des fois, ils sont juste, ils feront pas la route pour ça. Alors que, tu sais, c'est mon quotidien d'en faire de la route, là. Mais ce que j'aime bien, c'est d'être loin, justement, de toute la machine. Ça m'a forcé à créer mes propres affaires moi-même. À dire, moi, ça va être ça. Puis il y a un petit côté un peu punk là-dedans qui me ressemble beaucoup. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Okay. Comme, tu sais, ma tournée de spectacle que je fais en ce moment, c'est toute de l'autoproduction. Il n'y a personne qui est en arrière. Bien, j'ai une petite boîte de gérance, mais il n'y a personne qui met de l'argent pour dire, OK, go, on va te produire. Puis, tu sais... Je me frotte pas beaucoup à ça. Puis quand je le fais, c'est vraiment par amitié. Là, je vais faire des premières parties à Simon Delisle, qui est un de mes bons chums.
OK.
Fait que, tu sais, ça ressemble plus d'un parcours traditionnel d'un humoriste, mais je le fais vraiment parce que Simon, je l'aime vraiment beaucoup. Puis j'aime son show, mais je le fais parce qu'on passe des bons moments ensemble. Ouais.
Ici Richard Hébert. J'animerai cette année l'émission Accès MRC, où nous rencontrerons différents intervenants de la MRC Marrière-Chapdelaine et de l'administration municipale. Merci et à bientôt.
de ton côté, aller à Montréal, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Est-ce que, tu sais, quand t'écoutes ce que Mathieu dit, comment tu...
Ah, ben moi, depuis un bout, c'est sûr qu'à la base, quand on s'était séparés avec les sodas, tout ça, on voulait aller à Montréal, moi, puis Manu, tu sais, puis j'ai pas de regrets, ce truc-là, tout ça, parce que, tu sais, ça m'a fait donner des contacts, ça m'a fait intégrer le milieu au niveau des pairs, tu sais, beaucoup. Mais vois-tu, quand la pandémie est arrivée, tu sais, le modèle de la ville a changé, ça a fait réfléchir la planète au complet, mm-hmm. ça a avoir brisé des modèles qu'on pensait intouchables un peu. Tu sais, combien de monde qui se faisait dire « Non, tu feras pas ce job-là à la maison », casteurs sont sollicités à le faire deux, trois ans plus tard, alors que c'était une impossibilité. Mm-hmm. V'là trois ans, on n'en parlait même pas. Tu sais, c'était pas...
Ah oui, ça a changé le travail.
C'est pas vrai que les choses n'ont pas pris un 90 degrés. Fait que moi, je suis revenu ici en pandémie, tu sais, puis quand ça a recommencé, j'avais un petit vertige. J'ai dit « Je vais-tu retourner en ville temps plein? » Ça faisait deux étés que je passais ici, que ça m'avait fait réapprécier. Fait que là, moi, je tiens toujours, je vais encore une semaine sur deux. Une semaine, je suis ici avec ma blonde, tout ça, puis les enfants. Puis l'autre semaine, ma blonde a la chance de m'accompagner parce qu'elle travaille, elle est cinéaste, donc elle peut travailler de la maison. Mm-hmm. Elle fait de l'animation, tu sais, sur des tablettes, donc elle peut... Et puis j'adore la semaine sur deux, parce que j'arrête pas de dire, je vois les avantages des deux côtés. Parce les inconvénients, il y en a, mais moi, je suis un gars qui dit, ben je vois les avantages. La semaine, je suis à Montréal, tu sais, je vais manger dans des bons restos, je vais voir... Tu sais, ben ici, c'est vrai, mais je suis souvent que tu veux manger de l'Indien, tu veux manger un chiche taou, tout ça, de l'beau, ça me manque de dire... C'est bien correct aussi. J'ai la chance d'avoir une blonde qui est excellente pour cuisiner. Mais à Montréal, il y a plein d'avantages. À Dolbeau, il y en a plein aussi. Fait que je vois les deux, les bons côtés. Puis à Montréal, ça me permet. Moi, j'aime ça voir aussi, par contre, être d'un bord, être là, frotter à ce qui se fait aussi. Dans le sens, tu vois du bon calibre. Tu vois autant que tu vas être sur des soirées que tu vas jouer. Puis avant toi, il y a Eddie King. Avant toi, il y a Rachid Badouri qui vient faire une affaire. Autant que tu vois les jeunes aussi. Tu fais OK, ça, c'est ce qui est en train de pousser. Qui se fait, là. Fait que je trouve que ça te tient allumé aussi sur tout ce qui se fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, avec l'Internet, tu sais, vas-tu, une vie comme Mathieu est possible, alors que v'là 20 ans, v'là 30 ans, on n'aurait pas nécessairement pensé à ça. Si t'étais pas avec le milieu, pourquoi on penserait à toi? Pourquoi les gens te verraient? C'est une possibilité qu'il faut exploiter. Puis là, avec le théâtre qu'on a, moi, j'ai la possibilité de passer mes étés ici. Je suis vraiment capable de manœuvrer. Au départ, ça m'aurait stressé, je pense, de dire, je manque des opportunités, mais après un certain temps de carrière, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux faire.
Intégrer la garde.
Les gens me donneront, ben oui, puis les gens me donneront les dates quand je suis là, à moins, c'est sûr que si tu me dis tu viens de faire la première partie de José Hood, c'est pas ma semaine à Montréal, va m'arranger. Mais dans les faits, les gens, je leur dis, moi, c'est mes semaines à Montréal, c'est sûr, là. Puis j'ai pas eu aucune personne qui a dit, ah, ben, je peux pas te booker ou tout ça. Puis moi, ça me va. Quand je reviens ici, je prends le temps d'écrire. Là, on va repartir le théâtre d'été. Je prends le temps, je veux écrire un deuxième roman. Là, le premier n'est pas publié, il est écrit. Mm-hmm. Je veux me remettre là-dedans. Fait que ça me donne du temps pour penser aux choses, pour faire. Parce qu'il y a un bien gros un côté de travail de table qu'on pense pas en humour aussi. T'sais. C'est pas juste être dans l'action puis être dans les bars. Il y a tout le côté réfléchir à ça, booker des shows, penser à une promo. Fait que tout ce travail de table-là, je trouve que ma semaine au lac est tranquille pour se prêter à ça. Ouais. La semaine à Montréal est plus dans l'action, dans le show.
C'est quoi qui vous inspire pour écrire? Tu sais, parce que tu disais ça, là. Moi, je me rappelle dans le temps, j'étais à Québec pour me faire des personnages. J'allais m'asseoir une après-midi au Maïs-Saint-Roch, puis j'avais une palette de personnages.
C'est ça, ouais, ça.
Mais, tu sais, non, mais c'est quoi qui vous inspire ou qui va faire, hein, écoute, ça, c'est drôle. C'est un déclic, c'est un gag qui amène un sketch, un personnage, une idée, c'est tout ça en même temps.
Ben, je pense que ça va être ça un peu, moi. Moi, ça de vivre des trucs, puis faut qu'on ait des raconteurs. Fait, ouais. C'est sûr que si je reste chez nous, puis, tu sais, des fois, on dirait que ça fait du bien là, d'avoir. D'aller en faire des spectacles, tu sais, puis de dire, tu sais, je vais être sur la route, je vais rencontrer des gens, il va peut-être arriver des trucs, fait que ça, moi, ça devient du matériel de scène direct, là. C'est des anecdotes vives. Ouais, c'est sûr qu'il faut sortir un peu de la maison. Mais non, c'est Maïs-Saint-Roch, c'est très, très bon.
Mais moi, c'est vraiment, moi, parce que j'écris, je me mets, là, présentement, je monte un 90 minutes, puis je tape mes textes pour la première fois, tu sais, question. Okay. Je veux voir si je le monte à quelqu'un, si éventuellement un producteur m'approchait pour dire, hey, ce show-là, je veux l'avoir en texte, mais je le tape. C'est un peu de la triche parce que je le connais tellement dans ma tête. Je le dis à haute voix puis je le tape comme quand je le fais. Fait, mais je suis capable après ça. Par contre, ça va me permettre de dire...
Tu peux corriger.
Ah là, y a-tu des longueurs? Ouais, puis j'essaie de me dire aussi... Je me suis fait donner une technique d'écriture par un collègue qui disait à chaque fois qu'il y a un gag dans ta tête qui est supposé avoir un rire, fais un espace.
OK.
Pas pour mettre une ligne, t'sais, double interligne. Comme ça, des fois, tu vas voir, OK, ici, il y a six lignes, pas d'espace. Là. Tu vois visuellement où tu peux élaguer aussi. Parce que, OK, là, ça fait quatre lignes.
Moi, je travaille des surligneurs.
Ben, exactement.
Quand j'ai besoin d'écrire, parce que écrire, c'est épouvantable.
Moi, ben, moi, ça a été de le faire, de me coller à ça, tu sais. Puis mes inspirants, moi, par contre, vu que je fais de l'anecdote, ben, c'est vraiment, ça vient souvent de. Ça va partir de. J'ai un party, j'étais avec des amis, tu sais. Il m'arrive de quoi, je le compte, puis je vois la réaction. Mm. Fait que, OK, ça, c'est drôle, pas mal, versus je compte de quoi, puis c'est comique, tu sais. Je suis capable de. On dirait que, sans me dire, hey, là, je vais aller tester ça sur mes chums, c'est vraiment pas ça. Mais naturellement, je vais arriver de telle place, je vais compter telle histoire, je vais voir la réaction.
Tu le fais déjà ou naturel dans
oui,
ton
fait que je vais voir la réaction, je vais voir, OK, ça a pas mal ri.
Il y a juste moi qui sais. Quand il fait ça, là, il y a juste moi qui fait comme là, il est en train de travailler.
Non, mais.
Il essaye, ça... les gars.
Ouais, c'est ça. Mais puis des fois, tu arrives dans une place que tu es allé rejoindre un ami, mais lui, il est avec 3-4 autres amis. Fait là, tu fais, OK, c'est pas mes chums, c'est comme là, j'ai compté ça. Puis, tu sais, il y a eu un. Fait que, ah, t'es capable de le voir au naturel. Mais ça, je dis ça, moi, ça se prête à moi, versus quand tu fais du stand-up comique plus traditionnel. Souvent, les gars vont faire, les gars, je peux-tu dire deux, trois. Parce que si tu l'insères, ça, t'as même trop l'air. Ouais, ouais. Là, moi, c'est juste, ça se fait un peu naturellement. Mais oui, moi, mon inspirant, c'est vraiment ce qui arrive, les choses qui se passent. Parce que c'est rare que, quand j'ai été pendant la pandémie, il se passait moins de choses. Puis j'ai écrit du matériel. D'observation un peu plus. Ça venait dans mon roman. En fait, mon premier roman, c'est un gars qui fait. Tu suis la journée d'un gars qui, avant sa première médiatique en humour, c'est un gars qui fait du stand-up. Puis j'avais intégré son spectacle dans le roman. En ce sens, le roman termine, puis le gars entre sur scène. C'est la fin du roman quand il entre sur scène qui est présenté. T'sais, fait que tu te dis, ah, j'ai jamais vu son one-man show. Mais il était intégré dans le livre par petit bout, puis tu t'en rendais compte à la fin en voyant le pacing. Mais je l'ai retiré après ça. Mais je dis tout ça, là, et c'est comme si c'était publié. Le plan de marche pourrait changer. Mais j'ai quand même retiré le one-man show parce que je me dis, je veux pas que les gens. Je veux que ça ait un peu le contraire. Dans la vie, on a l'impression de connaître les humoristes. Martin Matt, on le connaît, mais dans les... on connaît pas ce qu'ils sont. Dans les faits, on connaît juste le personnage de scène. Moi, je voulais que ce soit un peu l'inverse. Là, tu connais ce gars-là dans sa tête tout le long du livre, mais tu n'as aucune idée.
S'il est drôle.
Puis de mettre du texte, c'était justement de m'ouvrir la porte à quelqu'un qui fait « Ah, oh, moi, je pensais qu'il serait plus drôle que ça. Ah, oh, moi, je voyais pas son humour de même. » Quand j'ai fait lire à 3-4 lecteurs, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, je pensais pas qu'il ferait des jokes comme ça. » Fait que je trouvais « Ah, là, d'abord, ça change peut-être ta vision que tu avais de lui. » Puis je trouve que c'est l'inverse. De là, tu connais un gars dans sa tête, sa vision de l'humour, mais tu n'auras jamais vu les jokes qu'il va faire. Puis tout ce matériel-là, il était trop proche de moi aussi. J'ai pas été capable de me dire. Ah, c'est mon père. Le personnage est un avatar entre moi et un humoriste quand même. Fait que je me disais, le monde va trop me chercher moi dans ces réflexions-là. Puis ce matériel-là, par contre, il n'était pas perdu. Après, ben, je me suis dit, c'est du stand-up comique, tout ça, dans le sens qu'il est écrit. Mais quand je me suis. À cette heure, j'en prends. Genre, je vais sortir en animation, j'essaie des trucs, je vais sortir là, deux, trois lignes d'observation, puis ça va m'amener à une histoire. Là, j'en suis là. Parce que quand j'essayais de faire un stand-up d'observation pendant 8-10 minutes, là, je me disais, à ce niveau-là, la compétition est forte. Il y a de l'excellent stand-up conversation qui se fait autant aux États-Unis.
Oui, oui.
C'est moins mon créneau. C'est pas que je suis pas capable de le faire, puis je suis pas attiré par ça de temps en temps. Mais de le faire sur un 8-10 minutes, je vais me perdre dans tout ça parce qu'il y en a beaucoup qui le font mieux que moi avec plus d'expérience. L'anecdote, c'est mon terreau, c'est mon endroit. Il y a pas personne. Il y a des gens qui font différemment de moi. Je dis, il n'y a pas d'autres qui le font mieux que moi. Moi, c'est mon affaire.
Mais c'est ton anecdote.
Dans ce sens que c'est pas une question de compétition. Il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire très bien. Si tu mieux, c'est pas. Simon Leblanc. T'es mal, c'est-tu mieux? Ben, c'est excellent. C'est un autre affaire, mais je me compare pas. Tandis qu'en stand-up, j'étais capable de me dire, ah, lui, il fait mieux que moi. Lui, il fait mieux que moi. Objectivement, ça, c'est mieux fait. Ouais. C'est plus habile.
C'est pas mal le monde qui font mieux que toi, moi, te le dire.
Ben, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben oui, mais j'étais capable de me le dire.
Non, mais versus... t'as le sentiment d'imposteur un peu. Moi aussi, j'étais comme moi, je me vois plus comme un raconteur, mais c'est vrai que pour faire
une introduction.
Ouais, la prémisse, ça peut être intéressant de dire, je prends, mettons, ce sujet-là, parce que je vais parler de ça dans mon anecdote. Ben là, je le décortique deux minutes, puis après ça, on tombe dans... Moi, il faut que je vous compte la fois de...
Quand j'anime ça, des fois, je vais le faire, je vais faire un 6-7 minutes d'observation, puis là-dedans, il y a une grosse ligne, ça, c'est mal. Ben, je vais pas faire... Là, il faut que je reparte de ce gars-là pour rebâtir. Je sors la grosse ligne de là, puis elle introduit une histoire, puis ce 6-7 minutes-là, je l'ai fait un soir dans un bar même pour... Ça s'oublie. Faut pas avoir peur non plus, des fois, à un moment donné, tu vas jouer dans des bars qu'il y a 40 personnes, c'est pas télévisé, tu te fais donner 25$. Hein. Ça sert à ça.
Ben
faut
oui.
pas que tu ailles faire ton bon matériel, que tu te fais payer 500$ pour faire. Que
c'est
tu
plus
vends.
Ça pour essayer. Les...
Ben oui, à un moment donné, moi, l'histoire de « Ah là, ça n'a pas bien rentré. » Écoute, Bodé, j'ai écrit ça matin, là, dans le sens, c'est un laboratoire ici. T'sais. Les jeunes qui commencent, je trouve qu'il y a ça qui est rendu tough puis dur. Qu'aujourd'hui, c'est plus facile de jouer que quand on a commencé puis qu'au départ, de jouer beaucoup. Mais être rémunéré, ça, c'est plus dur. Là. Rentrer dans un gig payant, tu sais, il y a tellement d'open mic pas payé que tu peux. Il y a du monde que je connais qui joue 5 fois à semaine, mais ils font 0$ avec ça. Là. Ouais. Mais à un moment il faut que tu arrêtes ça, quand même, à moins que tu saches que ça veut. À moins que c'est un hobby pour toi et que tu l'assumes.
Ben,
mais
ça devient un peu aussi triste parce qu'il y a des gens qui veulent vivre de ça. Fait que là, ça... Je veux dire, ça amène un peu une concurrence déloyale, à quelque part, non?
Ben, je sais pas, mais tout ça pour dire qu'à cette heure, la pression qui est sur les gens, je veux pas m'avancer dans la concurrence déloyale, ça fait aussi permettre de roder du matériel, ça peut faire éclore des talents, il y a une balance du pouvoir là-dedans. Mais ce qui fait que les jeunes, à cette heure, quand ils arrivent à leur première soirée payée, on s'entend, à Montréal, le rodage, il est pas mal rendu à 40$ ou 50$ pour aller tester un numéro, tu sais. Mais ça fait que ces jeunes-là, quand ils se ramassent sur ces premières soirées-là, des fois, ça fait un an, deux ans qu'ils font quand même du stand-up ici et là, ils se ramassent là. Puis, tu sais, il arrive dans des soirées. C'est rendu des soirées où il faut que, à moins qu'il faut que tu casses tout, sinon tu seras pas réinvité, il n'y a pas bien bien rentré. Alors que, dans, à la base, ça serait censé être des labos que tu fais un peu ce que tu veux. Là. C'est des mots que tu as écrits.
Ouais, c'est pris là.
Ben, exactement. Ouais. Mais je comprends quand tu es un jeune qui veut faire sa marque. C'est normal aussi. C'est ta première fois. Tu sais que dans la salle, tu joues. Tu sais que Mehdi Boussaïdan qui vient faire un show. Tu sais que lui, là, tu fais, hey, je vais me faire voir. Je ne veux pas arriver avec quelque chose que je me plante. Puis
ouais.
Ça a renversé un peu ça. Alors que ces soirées, ça servait là à ça. Puis au début, même moi, en arrivant à Montréal, quand j'ai commencé à refaire du stand-up en solo, j'arrivais là. Puis j'étais, il faut que je fasse du bon matériel. Puis ça, mais là, un moment donné, aujourd'hui, je l'utilise vraiment en me disant, gars, si je vois un bar, tu me donnes 25$, je veux m'en servir. Je veux pas arriver avec du matériel que je sais ouais. que c'est 100% efficace, c'est rodé, je l'ai fait 50 fois. Ça me donne quoi d'aller faire ça pour 20$? J'apprends rien, je vends mon numéro à moindre prix alors que là, c'est pas
tant
utile.
Tant qu'à ça pour 20$, tu viendras le faire dans mon salon. Moi,
exactement. Tandis que tu vas dans tes moyens.
Dans mes moyens, c'est dans mes moyens, 20$.
Il va te regarder tout le long, il va faire comme. C'est bon.
C'est bon,
c'est bon, ça.
Bon. On essaie de mon jeu à cette heure.
Oh, oui.
Mais bref, je trouve qu'à cette heure, il faut que tu te remettes ça parce que faut pas que tu te mettes la pression. On est 40 ici, c'est pas médiatisé, il n'y a pas personne, pas de journaliste ici. Quand même bien, faut que les gens comprennent ça aussi. Parce que d'un bord, il y a cette ingratitude-là. Tu sais, t'as dû le vivre, t'as passé à la TV. Du monde qui va aller te voir, tu vas roder des affaires que t'as écrit le matin. En tout cas, j'aimais mieux ça au prochain stand-up. Bien, c'est sûr, au prochain stand-up, tu as vu du matériel que j'ai fait 150 fois. Ouais, ouais. Là, tu as vu du matériel que j'ai écrit à matin. Tu sais, les gens sont ingrats des fois. À la télévision, je suis arrivé avec mon meilleur stock, buddy.
Ben ici, oui, oui, oui.
Tu as payé 5$. J'ai écrit ça à matin. Oui, c'était moins bon que mon meilleur numéro. On essaye. Là,
ton 5$, il me sert à écrire, à tester des affaires.
Mais là, je le dis souvent aux gens, il faut que vous ayez dans les comédie clubs avec cette vision-là
ouais,
aussi.
Ouais.
Parce que si vous allez là pour voir le one-man show de quelqu'un, ben non, son one-man show, il va le garder pour son choix. Il donne pas pour 5$ ce qui vend 50$ à la télévision ou dans c'est du laboratoire. Faut que tu ailles le voir dans cet esprit-là en se disant le gars, on travaille avec lui, on lui donne des réponses, puis il élabore quelque chose avec nous.
Ouais, c'est hot, c'est hot. Vous avez du métier, les gars. Pourquoi le monde va vous voir? Pourquoi le monde aime ça? Puis pas rien que vous, là. Pourquoi le monde va voir des. T'sais, parce que l'humour, ça marche, là. On, écoute, c'est une filière, écoute, il y a de l'argent
au
qui passe là. Là. Au Québec, c'est l'enfer,
c'est
aux États-Unis aussi. Puis... Pourquoi les gens veulent aller voir quelqu'un et les faire rire, Mathieu? Qu'est-ce que le monde te dit après tes shows, tu sais, de dire hey, « ça m'a fait du bien », je sais pas, c'est quoi que
ouais, ouais,
ça
non, mais il aime beaucoup les personnages dans les anecdotes. On dirait que ça les fait, je sais pas, ça les fait décrocher. J'aime pas ça, là, quand on dit tout le temps ça, là, de tu vas mettre ton cerveau à off pour avoir un show d'humour.
C'est tu l'utilises.
On l'utilise, ben oui. Mais tu sais, en voulant dire...
C'est quand c'est positif, mettre son cerveau à off de toute façon.
Ouais.
C'est rare.
Ouais, cool. Ouais, ouais. Non, je sais pas, les gens aiment ça, juste bien passer un moment avec quelqu'un, puis ont l'impression de, justement, il y a tellement de connexion qui se fait avec les gens que... Veux pas, les gens ont l'impression de te connaître puis viennent passer un moment avec toi.
Puis le fait que vous êtes des conteurs, ça amène aussi que des fois des anecdotes. Hey, ça me fait penser à une histoire qui m'est arrivée.
Ouais.
Ou t'sais, il pourrait être
bon, on est chanceux de ça, par exemple, parce que là, moi, ce que je remarque, c'est des fois, ben, c'est surtout dans le choix Simon, là, je le remarque parce que je vais voir le choix Simon, puis quand il commence une anecdote, je fais comme je la connais.
Ouais.
Je l'ai vu roder avec des chums.
J'ai vu l'anecdote des... live.
Ouais, toi, t'as vu partir du salon.
Hein, ouais, c'est ça. Des fois, je suis là dans l'anecdote. Fait, j'étais là quand il l'a compté, j'étais là après ça quand il l'a essayé. Fait, t'sais, puis là, je me ramasse que t'sais, je ris encore. Je fais comme OK. Mais vois-tu le stand-up d'observation, on sait plus une ligne, un punch, puis le punch est souvent une petite surprise. T'sais. Fait que là, quand tu le sais d'avance, un show de stand-up d'observation, plus plate à réécouter. Un show d'anecdote, des fois, tu fais hey, « je veux la réentendre ». Puis moi, même moi, ça m'arrive aussi quand j'arrive pour compter. Maintenant, je prends par exemple mon segment sur quand je travaillais à la SAQ. Bien, des fois, ça arrive que je vois du monde se donner des coups de coude en disant « ça, c'est bon, ça
». Ah,
et là, je fais comme « OK, OK mm-hmm. ». Et là, j'ai l'impression d'être un vieux band de rock qui start son...
classique.
Qui start son classique. Ben oui, mais c'est vrai, il y a ça. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Ça, j'aime bien ça, tu sais.
Mais je fais du pouce là-dessus. C'est vrai, moi, j'ai un spectacle, tu sais, que... qui est un spectacle laboratoire qui s'appelle Une fois c'est pas assez. Il y a une liste d'une vingtaine d'anecdotes, justement, puis les gens choisissent. Mais dans le show, je vais en faire 6-7. Fait que je t'invite à revenir voir le show si tu veux voir tes histoires. Mais ce qui arrive souvent, des gens vont. Tu sais, ils étaient venus en s'attendant à rien, ils m'ont vu telle place, ils viennent au show, ils viennent avec leur conjoint, ils sont deux. T'sais. Puis le show d'après, là, ils voient que je reviens, là, ils reviennent, mais ils ramènent des chums, tout ça, puis ils veulent les mêmes. Ils n'utilisent pas le concept, ils sont comme. Raconte-nous
la
ça,
même.
Parce que là, moi, j'ai raconté à mon chum, c'est tout croche, là.
Non, ouais.
Il essaie de la compter, elle est contente. Fait qu'ils reviennent à mon show, souvent, j'ai vu des gens qui ils redemandent, au lieu de dire je veux les autres, ils redemandent. Parce que oui, dans l'anecdote, il y a quelque chose de ça, que entre chums, on va une fois, des fois, fois dans les parties qu'on a pris un petit verre, tu racontes-nous ça, on se rappelle des affaires, tu sais. Fait que je pense que moi, dans mes anecdotes, il y a bien de ça aussi. J'ai des gens qui me disent justement, je vais compter une histoire de Woodstock en Beauce.
Ouais, il y a quelque chose de nostalgique.
Il te ramène.
Tu te rattaches à tes propres histoires.
C'est comme quand on aime toujours ça, réécouter un vieux sketch d'Yvon Deschamps ou un numéro parce que, ah oui, c'était bon, on veut les revoir. Des fois, on est déçus, mais tu sais, en général, le souvenir qu'on en a est bon.
Fait que tu sais, l'art de l'humour, moi, je pense que les gens viennent voir aussi parce que peu importe, il faut que tu trouves les choses qui te font rire. Par contre, il y a des gens, je trouve, qui s'acharnent à lui, je l'aime pas. Ben, écoute-le pas. T'sais, dans le sens que.
Mais y a-tu du monde qui vont voir l'humour parce que c'est à la mode d'aller voir de l'humour, tu sais, puis qui. Tu sais, je sais pas, là.
Il y a un peu de ça. Moi, je pense que l'humour, tu sais, tu regardes les programmations des salles de spectacle, l'humour, c'est plus que la moitié des salles. Mais ça, il y a une raison bien économique à ça. Entre faire venir du théâtre, puis un band, puis du gear, puis tout ça, faire venir un pied de micro, puis un gars, je pense que le milieu de la production a compris que tu vends les billets le même prix. Une pièce de théâtre, tu peux pas vendre les billets 200$ parce que les billets sont à 50$ chacun. Lui, le show, il coûte 10 000, lui, le show, il coûte 100 000. Hey boy, pour le même 50. La production a pris ça, puis je pense que là, ça a été mis de l'avant, ça a été. Fait qu'il y a un peu de popularité, il y a un peu de gens que oui, c'est branché présentement d'aller voir un stand-up et tout ça, mais d'un autre côté, les gens le font pour les bonnes, pour rire, pour décrocher à un certain point, je pense. Mais il y a quelque chose de. Oui, il y a quelque chose de. Puis tu sais, juste moi, les galas en général, je parle des galas des Olivier, je trouve que c'est assez petit le milieu de l'humour au Québec, tu sais. Les galas des Olivier ont peut-être eu sa raison d'être dans un moment. Moi, je parle, je suis assez anti-gala en général, mais en l'humour, je trouve ça encore plus petit. Puis, dans les dernières années, tu sais, j'écoutais les Olivier, puis c'est rien. J'adore mes collègues, c'est rien contre les, mes collègues ou tout ça. Que, puis moi-même, je serais nominé, je me pointerais. Là, je pense pas que je ferais, ah non, je vais snobber ça. Par contre, je trouve que je l'écoutais genre avec ma belle-mère. La dernière fois, je me rappelle que ma belle-mère a un gag sur deux où elle était comme, tu sais quoi, c'est pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Je trouve que c'est rendu un peu petit. Ça devrait revenir à. On fait des sketchs de présentation qui parlent d'actualité, de ça. Là, c'est rendu du petit road. Le trois quarts des gars sont presque à l'interne que si t'es pas comédie geek puis si tu suis pas le milieu, moi ma mère elle écoute les Olivier aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle se retrouve là-dedans.
Ouais, mais là, c'est le classique Québec, on est toujours en retard un peu sur les États-Unis. Puis je pense que les États-Unis, le roast marche pas mal. Fait que,
on prend une vague.
Moi, je suis pas. Je sais que ça doit faire du bien, faire du roast, mais des fois le monde me dit hey, j'organise une soirée de bien cuit, tu veux-tu venir? Non, je veux pas venir. Autant je veux pas me le faire faire parce que je sais que si tu fais un gag sur moi, il y a une partie de toi qui le pense, mais là tu vas me dire hey, c'est juste des jokes. Ah, vois-tu, c'est pour ça des fois que je suis loin de la machine puis je suis bien de ça parce que ça reste un milieu qui est très égocentrique. Du monde, on est tout seul avec nos petites carrières à des fois avoir des mauvaises intentions. Dire, pourquoi lui il a eu ce contrat-là, moi je l'ai pas eu. Fait que c'est ça, à un moment donné, là, quand t'es loin de ça, là, tu fais comme ah, ça fait du bien. Moi, je fais mes propres affaires de mon bord. J'ai une reconnaissance de ma région. That's it. Je veux rien de plus que ça.
C'est vrai. Puis, mais je vais pas dire que j'ai perdu mon
point. Oh, c'est correct. Tu parlais de la reconnaissance. Puis une question que je voulais vous poser, tu sais. Vous êtes connu là, dans le milieu ici. Je sais pas, peut-être à Montréal, tu es peut-être plus anonyme dans certaines parties, mais tu dois aussi rencontrer du monde qui te reconnaisse. Est-ce que ça vous oblige à toujours être drôle? Tu sais, là, le fan qui vient voir, hey Mathieu, tu sais, tu croises, tu viens au centre d'achat, tu vas à l'épicerie, puis le monde veut le t'aider. Tu sais, ça arrive-tu ça ou.
Ben, je suis. Je pense. Moi, je vais essayer. Moi, je vois vraiment naturel, là. Ouais. Fait que, tu sais, si la bonne phrase me vient au bon moment, je vais la dire, mais je me forcerai pas pour la dire.
OK.
Pas besoin, là. T'sais,
mais tu sens pas cette pression.
Si tu veux avoir du drôle, ben, tu viendras me voir en spectacle, tu m'écouteras à la radio, tu sais, à un moment donné, là. Je peux pas toujours être. Être allumé, puis c'est ça, au Vox, des fois, à minuit et demi, tu vas dire.
Parfaitement, je fais la drôle. Mais moi, je me mets pas cette pression-là pour deux scènes non plus.
Non, c'est malsain, ça. Ça pas.
Mais je voulais. Je parlais de le Rose, ça m'est revenu mon pote tantôt, parce qu'on parlait de cette culture-là, qu'il y a le Rose Battle qui est présenté à la télévision aussi. C'était Alex Barrett qui animait ça, Landry, tu sais. Puis j'ai parlé avec Mathieu Pepper, justement. J'étais allé animer sur le Gong Show, être juge sur le Gong Show à Montréal. Justement, j'ai rencontré l'humoriste Mathieu Pepper qui a écrit Entre deux draps, d'ailleurs, qui joue. Puis lui, il me dit, tu sais, il m'a apporté un point de vue sur le Rose que j'ai trouvé vraiment bon, qui disait, tu sais, que je trouve. C'est vrai que moi, je vais roaster dans une. Si tu me disais, tu vas-tu roaster Mathieu Lévesque, oui, je vais le faire. Parce que je l'aime profondément. Puis il disait, le roast, il faut que ça soit une marque d'amour. Quand tu te ramasses un battle que tu connais pas la personne, forcément, ça va tomber dans le petit, du physique. Tu vas aller chercher ce que tu connais en oui-dire de la personne, puis tu vas attaquer ça. Il dit, moi, je suis un peu, tu sais, je suis pas d'accord avec ce mot-là, puis je trouvais ça bien de dire, c'est vrai que The Rose, si c'est une marque d'amour, que moi, je le ferais pour vrai, parce que là, Matt, je l'aime, fait que je sais que ce que je vais dire, je vais être capable de gager tout seul. Il va-tu bien le prendre ou pas, puis moto, ce qui fait que je le ferais. Si tu me demandes de roaster monsieur, madame, tout le monde dans le cadre d'un show, Ben là, je sais pas si ce que je vais dire, ça va profondément. Ah, ça, c'est un bon gag. Hey, peut-être ça va le casser en deux. Ouais, versus Mathieu, je le sais, si ce gag-là, ça le casse en deux, je le ferais pas. T'sais, dans le sens que je serais capable de roaster quelqu'un que j'aime parce que la limite, t'es capable de la placer dans des shows télé. Puis en plus, le Roast Battle, les gens sont pas énormément connus. Là, t'sais, ça, c'est de la... Fait que tu trouves des fois que pour encore une fois, monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça, ben, j'ai écouté un petit gars avec une moustache dire à une petite madame qu'elle était grosse, t'sais. Alors, ouais, non, mais c'est ça, pareil. Dans les faits, tu les connais pas. Fait que tu fais que ce
petit gars-là,
il a dit à elle qu'il y a des gros, puis là, elle, elle a dit
qu'il y a des gros. On sentait qu'il y a du monde qui sont plus facilement atteignables que d'autres. Là. Il y a du monde, tu sais, que t'en as du jus, là, tu sais. Moi, je prends en donner là, à quelqu'un là, de dire il rit de ma grosse face, il rit de n'importe quoi, tu sais, tu vois. T'sais, en tout cas, il y a
ça devient quasiment de l'intimidation aussi. Là.
Puis on essaie de travailler contre ça.
Tu sais, un peu la superbe époque piment fort, là, tu sais, où tout ce qui était drôle, c'est rire du monde, des défauts physiques du monde. Là, ouais. Et, à un moment donné, on avait fait le tour assez vite. Là.
Ça ramène beaucoup de ça, je trouve. Puis ça devient petit à certains égards. Puis le monde, en plus, si c'est ton premier contact, un public qui dit moi, j'ai jamais vu ça, parce qu'il y a des gens, c'est pas vrai que tout le monde est super connu. Fait qu'il y a des gens qui te découvrent à Roast Battle. Puis l'impression qu'ils en retiennent, c'est « Hey, ouais, Guillette, hein? » Parce que, mais alors qu'ils n'auraient pas pensé ça si ça n'avait pas été ton introduction. Mais là, tu as passé 3 minutes à te faire dire que t'es lettre, la personne a fait, t'as perdu ton rôle, cet exemple. Là, t'as-tu vu tel gars? Ouais, elle est lettre, hein? Ça va être la première affaire, tu vois. Non, je trouve pas qu'il y a rien du bon qui ressort de ça non plus. Même si c'est dit que c'est que des jokes, c'est que des jokes. Puis dans les faits, moi, moi, te le dire à l'interne, après ces tournages-là de l'autre bataille, le 3/4 du monde est en beau Christ. C'est comme, oh, je suis correct, c'est rien que des jokes, ouais, ouais. Puis le gars, c'est pas vraiment ton chum, vient de dire que c'était
rien
que des jokes.
Ouais, non, c'est pas
vrai. Ça amène aussi, en tout cas, moi, ça me fait revenir à plein de moments où on va rire, mettons, tu sais, des femmes, des minorités.
Puis on
des
veut enfants. Plus ça, la société
aujourd'hui, ben non, on est en train de passer à autre chose.
C'est pas le message qui est. C'est le sous-texte, c'est peut-être. On dit qu'on veut plus ça, mais le sous-texte n'a pas nécessairement changé.
T'sais. Au niveau des thématiques, comme je viens de nommer, là, comme aujourd'hui, là, la misogynie, ça passe plus, le racisme, ça passe plus, la grossophobie, transphobie, bon. Est-ce que, mais on peut toujours là, continuer à le faire sous terme que. Tu sais, en disant, ouais, mais c'est une blague, ça va être drôle. Ça passe-tu encore ou dans le milieu, là, c'est en train un peu. On a vu tous les scandales qu'il y a eu aussi, là. Ça, je veux pas revenir là-dessus, puis ça, c'est les individus, c'est pas le milieu de l'humour, là.
Ouais, puis ça concerne plus que le gag,
là. Oui, oui, c'est ça, exactement.
Le féministe, ça concerne bien des.
Tu sais, parce qu'on on en a vu, tu sais, bon, prenons l'exemple là, classique, là, tu sais, Mike Ward, Jérémy Gabriel, cette histoire-là, bon, ça va en Cour suprême. Moi, à cette époque-là, il y a les journalistes qui m'appellent, je suis politologue, qui me disent, bon, qu'est-ce que t'en penses? Je fais mon analyse, puis je dis, pour qui tu prends? Je prends pour personne. Il y en a un qui défend la dignité humaine, l'autre la liberté d'expression. C'est deux enjeux importants en société, je pense.
Pas avoir un...
Là, la Cour suprême va trancher, mais au bout du compte, il faudrait être capable de valoriser les deux. Elle est où votre limite à vous, là-dedans? Hein? Vous êtes moins volubile, là!
Non, je peux me lancer aussi. Moi, j'y réfléchis beaucoup en ce sens que je pense pas... je pense que tout peut se dire, mais ça vaut-tu la peine d'être dit, premièrement? Et faut que tu réfléchisses à ça. Puis, deuxièmement, est-ce que tu es prêt... c'est quoi le message que ça envoie? Parce qu'il y a trop de monde qui c'est du deuxième... Le deuxième degré a trop le dos large. Enfin, à base, si tu as besoin de me le préciser que c'est du deuxième degré...
Que ça marche
t'as manqué ton deuxième degré, je suis censé le voir d'emblée pour rire, tu sais. Mais je trouve que, moi, je me questionne beaucoup. Le monde dit on peut plus rien dire, c'est pas vrai, vraiment. Tu sais, une tribune, je pense que t'écoutes un gars comme Mike Ward, même lui-même, il sous-écoute lui-même ce qu'il veut.
Oui,
il se bat pas. Il a jamais eu autant de liberté d'expression qu'aujourd'hui dans les faits. Mais il faut que tu assumes que ça peut avoir des répercussions. Tu peux pas juste être « j'ai le droit de dire ce que je veux » puis manger de la merde si vous êtes pas d'accord. Mais OK. Puis deuxièmement, ça vaut-tu la peine de dire, moi, je pense que je suis assez progressiste. Tu sais, tu parlais de le mouvement d'identité sexuelle, c'est en train d'avancer. Moi, je veux être du bord de ceux qui avancent. Je veux pas être le gars rétrograde qui fait que ça me tente-tu de me lancer dans... J'aurais le droit de dire un numéro que, exemple, moi, je trouve ça colon, mais quelqu'un se lancerait dans un numéro que, moi, pour moi, un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. T'as le droit, si tu veux, d'écrire un stand-up là-dessus. Après ça, attends-toi à brasser des grosses affaires, attends-toi à être étiqueté de ce côté-là, puis tu veux-tu ça? Moi, si quelqu'un veut ça, puis il l'assume, je suis pas de ceux qui disent on n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Par contre, t'as le droit de te faire ramasser, t'as le droit... Les choses changent. Fait que c'est pas vrai que des jokes racistes, ça pogne. C'est pas que t'as plus le droit de les dire, c'est que les gens ne veulent plus les entendre, ça a changé. Fait que moi, je me pose tout le temps la question, c'est quoi le message que ça envoie? J'en parle à 2-3 personnes. Si ma blonde me dit, tu sais, quand tu dis ce phrase-là, mettons, je parle d'une fille que j'avais datée, d'une expérience sexuelle en stand-up. La blonde, quand tu dis ça, ça peut faire penser à ça. Pour quelqu'un qui a vécu ça, est-ce que c'est ça que tu veux lancer? Là, j'y repense, puis je suis pas le genre de gars qui va faire « Ah, ben moi, je m'en fous. C'est ça. Non, je vais faire ça. » Hein? J'avais pas vu que ça pouvait lancer cette perche. Moi, si quelqu'un vient me voir et dire « Ce gag-là, ça m'a vraiment profondément blessé », j'aurais pas le choix d'y penser. Puis tu sais, Guy Nantel, moi, j'avais trouvé ça quand même absurde que l'affaire d'Alice Paquette, tu sais, en ce sens, c'est un gag. Là, tu sais, à quel point tu veux le garder, ce gag-là, pour la liberté d'expression, alors que quelqu'un te dit qu'elle est profondément... Tu as le droit d'être pas d'accord, mais je trouve qu'il n'y a pas eu la sensibilité d'enlever ce gag-là. Alors que...
Ben, c'est le respect du monde aussi, tu sais.
Puis si les gens... T'as bien beau penser aussi qu'il aurait dû le garder, c'est comme vous voulez, mais moi, je sais que... Ben, c'est un gag, là. On te demande pas d'arrêter ton spectacle.
C'est un gag, puis est-ce que c'est si drôle que ça?
Puis est-ce qu'il est essentiel à ton show? C'est-tu le nœud? Non. Fait qu'on te... T'sais, ah, on m'a censuré. Hey, dans un pays où on te censurerait, là, tu serais peut-être en Corée, tu serais peut-être en tôle, ton spectacle, il n'aurait plus. Tu sais, en ce sens non, que ça on t'a zéro censure, là. T'sais, t'es, tu peux faire rapport, ce que tu veux.
Ben oui, ben oui.
C'est des choix que tu fais. Moi, je pense que je conclurais là-dessus, pour ce point-là, que sois conscient que c'est des choix que tu fais. L'humour, c'est pas anodin. Puis c'est pas juste c'est des blagues. Tu peux pas t'en sortir sous ce couvert-là.
Mais autant pour la personne qui reçoit le gag, mettons, qui va t'accuser, qui va te dire une critique. Tu sais, encore là, faut que tu t'assures de recevoir la critique, mais il y a une manière de la donner, la critique.
Ben là, ça, je peux aller dans ce temps-là.
Tu sais, on est, mettons, sur les réseaux sociaux, puis toi, tu sais, des fois, tu vas faire un petit gag, puis tu vas dire, OK, là, t'as pas l'intention, c'est juste écrit, puis là, t'as quelqu'un qui te... Tu sais, moi, j'en ai vécu beaucoup avec... Moi, j'ai fait une parodie d'un camionneur que, tu sais, j'ai reçu...
Il était très drôle.
Belle fun. 48 heures de gros fun qu'il a fallu que je désactive ça parce que, tu sais, ben oui. Ben, désactiver les commentaires parce que là, c'est plus bon pour ma santé mentale. Puis le monde me disait que j'étais un père irresponsable.
Le monde te disait que t'étais un camionneur.
Alors que je chauffe même pas manuel, c'est comme, non, tu sais.
Ce camionneur! Je trouvais pas ça drôle, Mathieu, mais à chaque fois que le monde pensait que c'était un camionneur, je mon chum, mon Dieu. À quel point tu comprends pas.
Non, mais c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, je trouvais ça plate parce que là, le débat était rendu, les commentaires passaient par-dessus le sketch.
Ben oui.
Des fois, le monde me disait, hey, les commentaires, le monde sont-tu niaiseux, le monde sont-tu calme, le monde pense que c'est vrai. Je dis, ouais, t'as-tu aimé le sketch?
Ben oui, c'est ça.
Oui, je l'ai aimé. OK, fais 5 minutes, tu me parles des commentaires. J'aurais aimé ça que tu commences avec, il est bon ton sketch, tu sais.
Puis,
ben, tu sais, veux pas. Moi, je pense que tout peut se dire. C'est une manière que de donner les codes. Mais, tu sais, hey, là, des codes, j'en ai donné. Pour dire que j'étais un niaiseux, que c'était pas sérieux. La calotte, l'accent.
Les yeux croches, pas possible.
Les yeux croches, tout. Puis le monde pensait quand même que j'étais un gars, que j'existais pour.
T'es la page Matt Lévesque et Maurice, puis tu t'appelles Kevin dans
Kevin,
la vidéo.
C'est toutes les codes, j'ai pu les donner. Les gens, ils ont pas été capables. Fait que c'est là que ça prouve que. C'est touché des fois, mettons, je vais y aller avec ce sujet-là, mais je vais donner des codes qui comptent. Hey,
ouais. Ben, c'est pas tout le monde qui est capable qui a la même compréhension des codes.
Non.
Hein?
Non.
Puis tu dis d'envoyer les commentaires, je pense que c'est ça aussi un peu de. Les gens à cette heure, moi, quand vous voyez quelqu'un qui fait un gag que vous aimez pas, un gag déplacé, un gag malhabile, ben, n'ayez pas d'emblée la pensée de penser. C'est un trou de cul. Mais le gars, peut-être. Attends de voir s'il l'assume. Après ça, il dit mon gag, je l'assume. Ça, ben là, tu le catégorises trou de cul, c'est un investigué. Un
mais
peu.
On peut quand même en parler en calmement.
Je trouve les débats s'enflamment à cette heure. Il y a quelqu'un qui fait un tel gag, là, ça part tout de suite. T'as pas aimé le gag, le gars-là, c'est un cave. Cette fille-là, c'est une
ouais, là, les médias sociaux.
Prends
le
temps de voir c'était quoi l'intention derrière le gag. Peut-être que demain, il va dire hey, c'est un gag vraiment malhabile, je m'en excuse. Fait que finalement, il n'est pas si trop de cul que ça. Faut prendre...
Ça nous arrive tout de faire des erreurs, des lapsus ou peu importe.
Puis je trouve que ça polarise. Quand tu vas amener quelqu'un à comprendre, exemple, tu dis ce gars-là, il a fait un gag malhabile, misogyne, exemple. Ben, si tu le traites de ce gros cave misogyne, puis tu l'étiquettes sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait qu'il fasse ça. Il va plus se braquer que reconnaître ses torts. Tu vas le voir après le spectacle pour lui expliquer calmement que ton gag, moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait ce gag. Là, par contre, il passe pas pour moi pour telle raison. Je pense pas. La personne, là, c'est là que tu serais trop de cul. Hey, va donc chier, toi. Si la personne est super calme, puis elle t'explique ça, personne, tandis que si tu écris, mange de la merde en caploc, ces réseaux sociaux. Ça se peut qu'il n'y ait pas la même ouverture à t'écrire.
Ben, c'est normal. Là. Je pense, comme tu disais, tout se dit, mais il y a toujours une manière de le dire. Moi, je suis de cette école-là aussi. Là. Je pense qu'on est capable d'avoir des bonnes discussions franches.
Ouais,
puis
je pense
il faut qu'il y ait de l'écoute des deux côtés aussi.
Exact, des deux côtés. C'est ça. Il faut que les gens soient ouverts à sortir de leur zone de confort en humour. Mais par contre, tu sais, je parlais de Nantel, tantôt, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait preuve d'ouverture du côté du créateur. Lui, c'était comme, on me censure, je peux dire ce que je veux. Sois ouvert aussi à dire, ce gag-là, es-tu essentiel? Hé, une réflexion.
Ben, c'est parce que ça démontre peut-être qu'il est misogyne aussi, tu sais.
Ben,
est-ce que
ça se peut?
Quand tu viens valider aussi quelque chose, non?
Il avait fait une capsule.
En prenant position, là.
Sa capsule avec deux féministes.
Oui, où il passait 10 minutes à faire du mansplaining, là.
Oui, puis il disait aux filles, mot pour mot, genre, tu sais, moi, les filles, j'en parlais avec mes chums de gars. On se reconnaît pas là-dedans, t'en parlais avec tes chums de gars.
C'est ça le
point. Des fois, il est absurde un peu dans son. Mais content que, comme je te dis, le gars a le droit de faire ce qu'il veut.
Mais non,
le
non, c'est ça.
A le droit à faire son art, mais.
Mais ce que je veux dire, c'est au moment où que tu te défends, où tu t'excuses, tu démontres aussi ta sensibilité envers les gens. Puis
lui, il n'a pas ouvert cette porte-là. Puis, tu sais, on est autant dans un.
Mais comme tu dis, peut-être aussi que la première fois qu'il s'est fait approcher sur ce gag-là, il s'est fait approcher en se faisant dire mon de bébé, tu sais, des grosses insultes en cap-loc, on le sait pas, là, tu sais. C'est pour ça qu'il faut quand même y donner le bénéfice du doute.
Dans tous les cas. Bon.
Hey, il me reste une minute. Oh. Hey, ça va vite, hein?
Mais ça, ça va
qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, là? Mathieu?
Moi, je commence je finis ma tournée de mon One Man Show Rodeux. Je m'en vais me promener à partir de demain. Saint-Georges-de-Beauce, Lévis, Thetford, le centre du Québec. Québec, Montréal, aussi Sherbrooke. Puis après ça, je viens terminer ça ici au Lac-Saint-Jean. Je passe même par Chibougamau. Les premières parties à Simon-de-Lille. Toujours à 8h10 dans le Beauce à Énergie Saguenay. Puis là, je vais commencer à avoir un petit coin de page dans tous les journaux de Trium Media. On va faire un petit gag à toutes les semaines. Là, à part ça, ben là, on commence à plancher sur le théâtre du bien beau pour la deuxième année. On est dans le brainstorm.
Yes.
Simon?
J'ai mon one-man show. J'étais en écriture de la première, c'est le 10 novembre. Je sais pas si ça va être diffusé avant ça, tout ça, mais 10 novembre 2022 à la salle de spectacle de Jardin Marie-Chapdelaine. C'est Simon Trottier, juste moi. C'est une première. Je sais pas ce qui s'y vient par la suite. Je disais aux gens, c'est pas un plan de match à long terme, c'est à court terme. Je voulais ma première à Dolbeau. Je la fais là. C'est la première fois que j'écris un spectacle avec un lien, en pensant à mon pacing. C'est le best-of de tout ce que j'ai pu faire dans les 4 dernières années qui se ramasse là, qui vient un peu au monde avec ça. Fait qu'il y a ça, j'invite les gens à venir voir ça. Ça va être écœurant le 10 novembre. Je vais faire la première partie à Dom Paquette, d'ailleurs, à la salle,
okay.
Le 13 octobre, pour justement mousser ça un peu. Là, donc, sinon, Simon Trottier, Maurice sur Facebook, je me promène partout aussi.
Ben écoute, oui, hein, on va inviter les gens à suivre nos deux beaux humoristes. Et puis, merci les gars, j'espère que vous avez apprécié cette discussion-là.
C'est super cool.
On a un peu réfléchi, on a un peu fait le tour. Ben, c'est le fun aussi de parler d'humour et non pas juste en voir ou en rire. Là, c'est le fun aussi de réfléchir à ça puis de voir qu'il y a toute une réflexion derrière votre carrière puis derrière les enjeux, en fait. Là,
au States, il y a des baccalauréats en humour sur la réflexion d'eux comme projet.
C'est quand même étrange qu'on puisse t'évaluer sur « es-tu drôle ou pas? »
Non, mais c'est pas sur « être drôle ou pas », je pense que c'est sur la réflexion de l'humour.
Hey, merci beaucoup d'avoir été là et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!